Nous arrivons à l'avant-dernier passage. Nous arrivons à l'avant-dernier passage de Job. On arrive vraiment vers la fin du livre, comme vous pouvez le voir, vu qu'on est à partir du chapitre 40. Et nous allons enfin avoir le dénouement de l'histoire. Ça, c'est quand même bien. Parce que bon, le livre de Job, c'est un peu long, quoi. Il y a beaucoup de dialogues avec les amis. Et en fait, ça met du temps à se délier. En fait, on sait en fait ce qui s'est passé dans le ciel. Il y a un dialogue, mais on ne sait pas en fait comment ça va se finir. Qui a raison? Est-ce que c'est Job ou est-ce que ce sont ses amis? On sait qu'en fait, c'est plutôt Job qui a raison, mais comment va réagir Dieu? Parce que on se dit quand même que Job est allé un peu loin, même si au départ, il est juste. On se dit, bon, quand même, il a poussé le bouchon très très loin quand même. Convoquer Dieu pour qu'il lui dise en face s'il a eu tort, tout ça, c'est un peu quand même, un peu osé. Et Dieu se manifeste enfin. Ça fait du bien. Dieu se manifeste enfin. Et justement, ce qui s'est passé avant le passage que nous allons étudier, Dieu s'est manifesté une première fois. Dieu a répondu une première fois à Job en lui montrant la sagesse et la puissance avec laquelle il a créé l'immense univers. Ça, c'est un passage qu'on connaît la plupart du temps. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé l'univers? Est-ce que tu étais là quand j'ai créé les étoiles? Et puis là, il en fait une tartine. Genre, il montre l'immensité de sa connaissance, l'immensité de sa puissance. Il a créé l'univers. Première phase de réponse de la part de l'Éternel et réponse de Job à cette démonstration de l'immensité du Seigneur. Oui, je reconnais que je ne sais rien, donc je me tais. Je me tais. Job bat en retraite. Job fait profil bas, mais Job ne dépose pas les armes. On sent bien le côté, oui, d'accord. Quand vous vous engueulez avec quelqu'un et que la personne en face dit, d'accord, vous sentez qu'il faut en remettre une couche parce qu'elle n'a pas forcément tout à fait compris. Dieu passe donc à la vitesse supérieure. Dieu passe à la vitesse supérieure avec le discours d'aujourd'hui qui va achever Job, si je puis me permettre. Et la réponse de Dieu à Job face à sa souffrance, face à sa peut-être supposée culpabilité d'après ses amis, sa réponse. C'est un hippopotame et un crocodile. Ok. Première phase de la réponse à Job, c'est le rapport entre Dieu et Job. Et c'est un peu comme si Dieu disait, allez vas-y Job, fais le juste. Et c'est la première partie que nous allons lire. Est-ce que quelqu'un veut lire les versets 6 à 14 ? Donc Job 46 à 14, est-ce que quelqu'un veut lire? Oui, merci Cécile.
Alors, du sein de la tempête, l'Éternel dit à Job, mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste? Veux-tu me condamner pour garantir ton innocence? As-tu un bras tel que celui de Dieu? Ta voix peut-elle égaler mon tonnerre? Va te parer d'honneur et de grandeur, et revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ton indignation et d'un regard courbe tous les hauts. Que ton regard les fasse plier tous, et les méchants écrase-les sur place. Dans la poussière, va les enfouir ensemble, enferme-les dans la nuit du tombeau. Alors moi-même, je te rendrai hommage. Car ta victoire sera due à ta main.
Première phase de discours, où Dieu lui dit: t'es sûr que tu veux te comparer à moi? T'es sûr que tu veux faire le brave? Vas-y, sors tes petits muscles pour voir. Fais le juge. Essaie de jouer à ça. Et compare. Comparons. Que j'aime énormément l'ironie qu'il y a dans ces versets. T'es vraiment sûr que tu veux entrer en justice avec moi? Vas-y, avec ton regard, fais plier les méchants autour de toi. Vas-y, essaye. Essaye. Donc là, vous avez Job qui déjà disait plus rien. Et là, vous avez Dieu qui enchaîne comme ça. T'es vraiment sûr que tu veux jouer à ça, Job? C'est vraiment un peu l'histoire du petit enfant devant le papa. Où le papa dit: t'es sûr que tu veux te mesurer à moi maintenant? La réponse, il n'y a même pas besoin de réponse à ce genre de choses. Mais c'est une interpellation qui est intéressante. Oui, Job, tu es juste. Mais dans ce que tu as dit... Voilà, essaie d'assumer ce que tu as dit là, maintenant que je suis là. Et que je t'ai démontré que j'ai créé l'univers, tout ça, tout ça. Et que je connais beaucoup plus de choses que toi. On a le chapitre connaissance est évacué. Maintenant, on va aller dans le chapitre muscle. Job, bien sûr, ne peut pas faire le juge. Deuxième partie. C'est la comparaison. La comparaison. Après avoir montré la comparaison Dieu-Job, et Job ne peut pas tenir. Maintenant, c'est une comparaison Job-Behemoth. Behemoth. Qu'on peut voir probablement comme l'hippopotame. Vous savez que l'hippopotame est l'animal qui tue le plus de personnes en Afrique. C'est pas le lion, c'est pas la panthère, pas la girafe non plus, mais ça on l'aurait remarqué. C'est l'hippopotame, l'animal le plus meurtrier d'Afrique. Et donc, ouais, c'est sérieux ce que je dis. Hein. Là, dans cette comparaison Job-hippopotame, Dieu va dire: voilà, moi je suis un dompteur. Je suis le dompteur de l'animal le plus dangereux d'Afrique. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les versets 15 à 24, qu'une bonne âme va lire. Enfin, qu'une bonne bouche va lire. Oui.
Regarde donc, voici l'hippopotame, je l'ai créé tout aussi bien que toi. Comme le bœuf, il se nourrit de l'air. Vois quelle force réside dans sa croupe, quelle vigueur dans ses muscles des flancs. Il plie sa queue, solide comme un cèdre, et les tendons sont pressés comme dans ses cuisses. Ses os ressemblent à des bourreaux de bronze, sans ossature, à des tasseaux de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, son créateur, qui lui impose le respect, pas le glaive. Des monts entiers produisent son fourrage, là où s'abattent les animaux sauvages. Il dort à l'ombre, caché dans les lotus, sous le couvert des roseaux du marais. Il est couvert par l'ombre des lotus. Les peupliers du torrent le protègent. Si l'eau déborde, il ne s'en émeut pas. Si le Jourdain se jette dans sa gueule, il reste calme et en sécurité. Va-t-on le prendre à face découverte et l'entraver en lui perçant le muscle?
Dieu décrit un animal devant lequel on ne fait pas le malin. Voilà, c'est le chef-d'œuvre de Dieu en matière de puissance, en matière de masse. Et qu'est-ce que fait Dieu au verset 19? C'est son chef-d'œuvre, c'est son chef-d'œuvre qui peut rester caché, qui s'en fiche, il est dans l'eau et personne ne va le faire sortir de l'eau, qui est énorme. Verset 24, va-t-on le prendre à face découverte et l'entraver en lui perçant le mufle? Réponse, c'est une question rhétorique. La réponse est bien sûr non. Mais verset 19, Dieu lui impose le respect par le glaive. Voilà, la seule personne qui peut dompter l'hippopotame, c'est Dieu. Et c'est un peu comme si Dieu disait à Job, vas-y, va avec tes jolis petits bras musclés, et puis va dompter l'hippopotame, toi. Allez, vas-y. Bien sûr, la réponse à la question du verset 24, c'est personne, et donc si personne ne peut prendre l'hippopotame, et Job non plus. Et donc Job était déjà silencieux. Il reste silencieux. Voilà, vous voyez un peu la démonstration de puissance qui monte. Ouais, d'accord. Job, tu peux pas te mesurer à moi, à Dieu. Ok, on va descendre d'un étage. Mesure-toi à l'hippopotame maintenant. Toujours pas? Ok, on va passer à un autre animal. Mais par contre, là, c'est plus une comparaison entre Job et l'animal, le Léviathan, qu'on pourrait traduire le crocodile. Même si, bien sûr, Behemoth et Léviathan, voilà, il faut réfléchir pour savoir à quel animal ça correspond. Mais maintenant, en fait, on compare plus Job et le Léviathan, mais maintenant, on compare Dieu et le Léviathan. Et c'est ce qu'on va lire, c'est la partie la plus longue de ce passage. Et je vous mets ce titre avant à chaque fois pour que dans votre lecture, vous fassiez une lecture active, pour que justement vous puissiez, dans cette description du Léviathan, voir en fait comment le Léviathan peut avoir les caractéristiques de puissance de Dieu. Parce que le but, c'est de prouver que Dieu est indomptable. Est-ce que quelques-uns veulent lire? Il y a plusieurs diapos, il y a quatre diapos pour lire les versets 40, chapitre 40, verset 25 à 41, verset 26. Merci Sam. Fais toute la diapo.
Iras-tu prendre avec ton hameçon le crocodile pour le tirer de l'eau? Vas-tu lier sa langue avec ta ligne? Lui mettras-tu un jonc dans les naseaux? Perceras-tu d'un crochet sa mâchoire? Te fera-t-il de nombreuses prières? Te dira-t-il doucement les tendresses? Conclura-t-il une alliance avec toi? Le prendra-t-il pour serviteur habile ou pour jouer? Un comme un petit oiseau, le liras-tu pour amuser les filles, tes filles? Des associés le mettront-ils en vente? Des commerçants le partageront-ils? Vas-tu cribler de dards sa carapace? Vas-tu barder sa tête de harpon? Attaque-le, et tu ne te souviendras plus de ce combat, car tu n'y reviendras plus. Next.
Vois devant lui, tout espoir de le vaincre est illusoire. À sa seule vue, on sera terrassé. Nul n'osera exciter sa colère. Qui donc alors pourrait me tenir tête? Qui m'a prêté pour que j'aie à lui rendre? Tout est à moi sous l'étendue des cieux. Je ne veux pas me taire sur ses membres, et je dirai sa force incomparable et la beauté de sa constitution. Qui a ouvert par devant son habit? Qui a franchi les deux rangs de ses dents? Qui a forcé les battants de sa gueule? Ses crocs aigus font régner la terreur. Majestueuses sont ses rangées d'écailles, bien assemblées comme des boucliers, articulées les unes sur les autres, et aucun souffle ne pourrait s'y glisser. Soudées ensemble, chacune à sa voisine, elles se tiennent et sont inséparables.
Il éternue, c'est un jet de lumière. Ses yeux ressemblent aux paupières de l'aube. Des étincelles jaillissent de sa gueule. Ce sont des gerbes de flammes qui s'échappent. De ses narines, la fumée sort en jet, comme d'un pot ou d'un chaudron bouillant. Son souffle embrase, comme un charbon ardent. Et de sa gueule, une flamme jaillit. C'est dans son cou que sa vigueur réside, et la terreur danse au-devant de lui. Ils sont massifs, les replis de sa peau. Soudés sur lui, ils sont inébranlables. Son cœur est dur, figé comme une pierre. Il est durci comme une meule à grain. Quand il se dresse, les plus vaillants ont peur et se dérobent saisis par l'épouvante. L'épée est l'atteint sans jamais trouver nulle prise. La lance même, la flèche et la cuirasse ne servent pas à celui qui l'approche.
Pour lui, le fer est comme de la paille. Il prend le bronze pour du bois vermoulu. Les traits de l'arc ne le font jamais fuir, et les cailloux qu'on lance avec de la fronde ne sont pour lui que des pétus de paille. Oui, la massue est un brin de roseau, et il se rit du sifflement des lances. son ventre armé de tessons acérés est une herse qu'il traîne sur la vase. Les eaux profondes, il les fait bouillonner comme un chaudron. Il transforme le lac lorsqu'il entre en un brûle-parfum. Il fait briller après lui son sillage. Les flots paraissent couverts de cheveux blancs. Nul n'est son maître ici-bas sur la terre. Il fut créé pour ne rien redouter. Il voit sans peur les puissants mastodontes. Il est le roi des plus fiers animaux.
Merci. Troisième épreuve de ce Koh-Lanta. Après lui avoir demandé d'imaginer ce qu'il y avait derrière Orion, derrière l'univers, et après, en fait, finalement, une épreuve de questions pour un champion. Après, lui a l'épreuve de chope l'hippopotame. Il n'a pas vraiment réussi non plus. Maintenant, c'est fait le malin devant le crocodile. C'est... Voilà, c'est... Et vous voyez à quel point, en fait, il y a aussi encore une ironie dans ce que Dieu dit à Job. Et vous voyez aussi clairement la comparaison entre l'Éternel et le crocodile. Le crocodile, on ne peut absolument rien lui faire. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas l'approcher. Il est extrêmement impressionnant. Et donc, nul n'est son maître. Et l'Éternel, en fait, fait clairement la comparaison avec ce crocodile quand il dit, bah, moi non plus, en fait. On peut pas me dompter. Moi non plus. On peut pas me tenir tête. Verset 2 et verset 3. Qui m'a prêté pour que j'aie à lui rendre? Tout est à moi, sous l'étendue des cieux. Qui pourrait me tenir tête? Réponse. Personne, s'il tient à la vie. Personne ne peut me tenir tête. Dieu, voilà, on peut toujours se poser des questions sur ce qu'il fait. On peut toujours dire, ouais, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il fait. Je pense que Dieu le tolère, qu'on ne comprenne pas ou qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Mais par contre, qu'on lui dise, bon, maintenant, j'aimerais bien une confrontation directe pour dire ce que je pense. Ben voilà la réponse de Dieu. C'est, ben va devant un crocodile, ce sera bien mieux pour toi. Va devant un crocodile, voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas de confrontation possible. Il n'y a pas de confrontation possible sans qu'il en résulte un drame. Donc voilà, trois manifestations de puissance de la part de Dieu. Et quelle va être la réaction de Job? Et donc ça, c'est le... Chapitre 42, les six premiers versets, on va voir la célèbre réaction de Job par rapport à cette démonstration de puissance de la part de Dieu. Et la question qu'on va se poser, c'est finalement de quoi se repent Job? Est-ce que quelqu'un veut lire cette réaction de Job?
Job répondit alors à l'Éternel, je sais que tu peux tout. Et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans comprendre des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude. En m'humiliant sur la poussière et sur la cendre.
Voilà. Là, on n'est plus face à quelqu'un qui s'est tué. Mais là, on est face à quelqu'un qui s'humilie, qui se condamne. Donc, ces deux bêtes, l'hippopotame et le crocodile, convainquent Job de s'humilier devant son créateur. Mais finalement, de quoi se repent-il, monsieur Job? Voici une de ses paroles. Enfin, une de ses paroles. Un truc qui peut résumer ses paroles. Rien ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Rien ne peut t'en empêcher. Tu fais ce que tu veux. T'es tellement puissant qu'il n'y a rien à te dire. Tu fais ce que tu veux. Deuxième élément, j'ai parlé sans comprendre. J'ai parlé sans comprendre. Alors dans tout le livre, hein, Job a dit je comprends pas. Hein. A dit je comprends pas. Mais il y allait un peu fort quand même pour convoquer Dieu en justice. Et voilà, et en fait on sait qu'il est juste, donc il a pas menti en disant qu'il était juste. Il est juste. Mais par contre, la manière dont il l'a dit à Dieu était peut-être un petit peu excessive. Mais surtout, et vraiment, surtout le truc qui frappe cette réponse de Job, c'est ça. Mes yeux t'ont vu. C'est la clé du livre. C'est la clé du livre. Mes yeux t'ont vu. C'est tout ce que demande Job depuis le départ. Je veux te voir. Je veux que tu viennes me voir. Je veux que tu m'expliques. Je veux te voir. Alors pour l'explication, on repassera. L'explication de la situation de Job. Parce qu'au final, Dieu ne lui explique absolument rien. Mais l'aboutissement, le vrai but de tout cela, c'est que Job a vu Dieu. Et on sait que Job avait besoin d'être rassuré à propos de Dieu. Et Dieu le fait non en lui expliquant ce qui se passe, mais en lui expliquant qui il est. En lui expliquant qui il est. Il se révèle à lui. Et c'est bien ça l'essentiel pour Job. C'est l'essentiel peut-être qu'il n'avait pas saisi avant, on ne sait pas trop. Peut-être que Job voulait beaucoup plus quand même qu'on lui explique un peu pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi il lui arrive tout ça. Mais là, le fait que Dieu lui explique et fasse cette comparaison, puisqu'en fait, Dieu ne peut pas expliquer qui il est comme ça parce qu'il est tellement incompréhensible. On ne peut pas le voir. Donc il est obligé d'utiliser d'images, il est obligé de se comparer avec des animaux impressionnants. Mais ça suffit à Job. Et Job, en fait, boum, comprend. Ça, c'est ça. Ça le foudroie. Et il se dit, ah, enfin, mes yeux t'ont vu. Je vous rappelle que Job n'a vu personne. Job n'a vu personne. La seule vision de Dieu qu'il a, finalement, bah, c'est un hippopotame et un crocodile. Réfléchissez la prochaine fois que vous voyez un hippopotame et un crocodile. C'est pas ces animaux-là en tant que tels hein, qui achèvent de convaincre Job, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. L'Éternel est un dompteur, l'Éternel est indomptable. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Alors on peut se dire, c'est quand même vraiment bizarre cette histoire où en fait Dieu explique rien et il a juste à montrer ses muscles pour finalement convaincre Job. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la Bible. Le fait que Dieu montre ses muscles et que ça doit suffire. Et c'est pour ça que je vous propose ce petit moment d'intertextualité, c'est-à-dire de comparer justement les fois où Dieu montre ses muscles dans plusieurs passages de la Bible. Pourquoi est-ce que ça suffit quand Dieu montre ses muscles ? Eh bien, je pense que c'est parce que les humains ont besoin de sécurité. Ont besoin d'être en sécurité. Et le fait d'être gouverné par un Dieu tout-puissant, par un Dieu omniscient, c'est la chose la plus sécurisante qui soit. Vous connaissez la pyramide de Maslow ? De Maslow. Maslow. Ah, Maslow, c'est le secrétaire général des... Bon, c'est pas grave. C'est le secrétaire général des Suisses, c'est vrai. Des Belges, pardon. Ouais. La pyramide de Maslow. Donc, les besoins humains. Le premier besoin, c'est le besoin de sécurité. Et je pense que quand Dieu voilà, dit « Wow, je suis là !» Attention, c'était pas Johnny, là. Hein, c'était Dieu. « Je suis là et je tiens la baraque. » et me saoulez pas, je sais ce que je fais et je tiens la baraque, c'est quelque chose qui suffit à sécuriser, parce qu'on sait qui il est. Et je vais vous donner 5 exemples dans la Bible qui me sont venus en tête. La tempête sur le Sinaï, avec le peuple ou même avec Moïse, on voit vraiment que voilà, on est dans le début un peu de la relation entre Dieu et son peuple. Et là, vous avez Dieu qui se manifeste de manière extrêmement puissante. Et que ce soit Moïse ou le peuple, au bout d'un moment, c'est d'accord, on arrête nos bêtises, on arrête de faire n'importe quoi, on va te suivre. Je pensais aussi à la vocation d'Ésaïe ou à la vocation d'Ézéchiel. Quand Dieu appelle ces deux prophètes, il leur donne une vision absolument merveilleuse et majestueuse. Il amène Ésaïe, il lui montre des serpents brûlants, il lui montre les coulisses de l'histoire, il lui montre un grand palais dans lequel il règne. Et la réaction d'Ésaïe, c'est « Malheur à moi !» Malheur à moi, je suis dans un lieu pur, et moi, mes lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Être impressionné comme ça, d'être dans la présence de Dieu. Ou Ézéchiel, qui voit le char divin, le char de Dieu, qui se déplace dans toutes les directions, un char que vous n'arriverez jamais à dessiner. Et qui fait qu'en fait, Ézéchiel aussi est tout à fait saisi par la beauté, par la puissance du Seigneur. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on a aussi une parole de Jésus. Je vais vous dire qui vous devez craindre. C'est pas les hommes qui peuvent vous faire du mal si vous témoignez. Je vais vous dire qui vous devez craindre. C'est celui qui peut vous faire plonger tout entier dans la géhenne. Vous savez, le Jésus un peu peace and love qu'on décrit des fois. Il a dit, je vais vous dire qui vous devez craindre. Si vous avez peur de témoigner, entre ceux qui peuvent vous jeter en prison et celui qui peut vous jeter dans la géhenne, choisissez. La réponse est évidente. Mais là, vous voyez, Jésus montre là aussi les muscles. Quand Dieu nous demande d'obéir, il faut obéir. Et puis, quand Jésus n'est pas compris des disciples, quand il fait un truc qu'on juge déraisonnable, genre, il lave les pieds de ses disciples, et que Pierre dit, mais non, n'importe quoi, Seigneur, tu vas pas me laver les pieds, c'est toi le Seigneur. Réponse de Jésus. Non, pas cette fois-ci, mais je vais la sortir derrière ça. Tu comprends pas ce que je suis en train de te faire, mais laisse-toi faire. Sinon, il n'y a plus rien entre toi et moi. C'est fini. Et là, vous avez Pierre qui dit, ah oui, bah alors les pieds, la tête, tout ça, allez, vas-y, je vais me douche. Hein? Et on a aussi cet épisode avec Pierre, hein, où Jésus dit qu'il va aller à la croix et qu'on va l'arrêter, qu'il va être crucifié. Pierre dit, mais non, mais n'importe quoi, c'est pas ce qui va t'arriver et tout ça. Et là, vous avez Jésus qui dit, arrière Satan. Ces paroles que tu dis là, c'est pas de toi-même que tu les dis. T'es sous une mauvaise influence. Et là, vous voyez Jésus qui durcit vraiment le ton. Parce que maintenant, il faut vraiment l'écouter, il faut vraiment le comprendre. Et là, maintenant, il réagit en Seigneur. Et enfin, vous avez Paul qui traite une question que vous aimez tant. Dans Romains 9, la question de la... Enfin, les deux questions que vous aimez tant d'ailleurs, parce qu'il y en a deux en une, c'est la question d'Israël et la question de la prédestination, au final. Et en fait, Paul parle un petit peu en disant « Ah, je suis super triste par rapport à mes compatriotes israélites, parce qu'en fait, Et la majorité s'est pas tournée vers Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Et donc, en fait, voilà, il est dans plein de discours, dans plein de discours, dans plein de discours. Il réfléchit comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, il pense un peu à des contestations qu'on pourrait dire. C'est-à-dire, bon, bah, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce qu'en fait il a fait ça et pas ça, machin, machin, machin? Et Paul en conclut. Qui es-tu pour discuter avec Dieu? Qui es-tu pour discuter avec Dieu? Et il le dit plusieurs fois finalement dans l'épître aux Romains. Dieu déclare, j'aime qui j'aime et je rejette qui je rejette. Point. Truc qui calme un peu, hein. Ouais, pourquoi telle personne elle est sauvée, telle personne elle est pas sauvée? Ouais, liberté, pas libre. Je sauve qui je sauve. Je rejette qui je rejette. Point. Ok. Ok. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Vous pourrez aller parler de prédestination à un crocodile si vous voulez. Tout comme Job, nous sommes confrontés à des choses qui nous dépassent, à des choses que nous ne comprenons pas. Nous avons l'impression que Dieu peut être injuste. Nous avons l'impression que Dieu sait peut-être pas trop ce qu'il fait ou qu'il respecte pas notre liberté ou voilà tout ça. Dieu fait ce qu'il veut. Et justement, il y a des héros bibliques. Il y a plusieurs héros bibliques comme ça qui lâchent prise devant ces manifestations de Dieu, mais qui ont besoin comme ça que ça fight un peu. Et un héros biblique, un des patriarches, bah, c'est Jacob. Jacob, lui, vous voyez, il y a une grosse progression spirituelle, enfin grosse et lente progression spirituelle, pour passer de « Monsieur, je trompe tout le monde et je fais ce que je veux » à « Je finis par m'humilier devant Dieu et à comprendre et à changer d'attitude devant Dieu. » Et qu'est-ce qu'il a fallu pour tout cela? Il a fallu plein de situations rocambolesques, mais il a fallu qu'il se batte avec un ange. Au bout d'un moment, il fallait que Dieu envoie un ange et qu'il y ait vraiment un truc concret qui se passe, qu'il se batte toute la nuit, et qu'au bout d'un moment, l'ange qui aurait pu défoncer Jacob en 2 secondes et demie, au bout d'un moment, bon, voilà, tac, 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 voilà, il se bat, et au bout d'un moment, en fait, bam, il blesse Jacob pour que Jacob puisse plus rien faire. Mais Jacob s'accroche. Je te laisserai pas partir tant que tu m'auras pas donné ta bénédiction. Jacob avait besoin d'une confrontation, avait besoin de voir Dieu et de se battre avec lui, de vraiment avoir ce rapport-là, ce rapport charnel avec Dieu. Il avait besoin de ça pour comprendre à qui il avait affaire, pour changer. Dans un autre registre, le prophète Habacuc. Ouais, je sais, Manu, tu es contente. Le prophète Habacuc dit à Dieu, mais je ne comprends pas. Ce peuple, t'es infidèle. Fais quelque chose contre ce peuple, mon peuple. Dieu lui dit, d'accord, je vais faire quelque chose. Je vais envoyer les Babyloniens, ils vont tout détruire. Non, mais en fait, j'avais pas demandé ça. Et donc vraiment, Habacuc est tout à fait désœuvré devant cette réponse de Dieu. Mais Dieu, en fait, lui explique ce qu'il va faire. Et surtout, lui dit, mais tu crois tout savoir, mais en fait, le juste vivra par la foi. Fais-moi confiance. Je suis le maître de l'histoire. Je suis le maître de l'histoire. Je sais ce que je fais. Et Habacuc est obligé de se soumettre à cela. Il est le prophète d'une période. Il va pas voir le bout. Et même ce qu'il est en train de voir, ça lui plaît pas du tout. Mais Dieu lui dit, je contrôle. T'inquiète pas, je contrôle. Esther, la reine dans le palais. Elle voit qu'il y a un grand danger pour le peuple, puisque le bras droit de l'empereur veut faire trucider absolument tous les Israélites dans le monde. Elle se dit, bon, je ne sais pas si je vais réagir, parce que sinon je crains un peu pour ma place, je ne sais pas ce qui va arriver, j'ai un petit peu peur, voilà. Et là, vous avez Mardoché qui lui dit, attention Esther, si t'es reine, c'est pour ça. C'est pour ça. Et surtout Esther, ne crois pas que si tu fais rien, tu en réchapperas. Si tu ne fais rien, si tu veux te préserver, tu mourras avec nous tous. Petite parole qui fait bah, qui vous plaque contre le mur et qui vous met devant vos responsabilités. Réagis, réagis, sinon il va t'arriver des problèmes. Esther écoute son père adoptif. Elle prend des risques, des vrais risques. Elle demande vraiment à ce que tout le monde prie et jeûne. Et ça marche. Et ça marche. Parce que elle a eu ce petit coup comme ça. Ce petit coup qui l'a fait réagir. Et c'est vrai que des fois, on a vraiment besoin d'avoir des coups. On a besoin que Dieu nous montre un peu la façon forte de voir les choses pour nous faire réagir. Et bien sûr, je finis dans ce portrait des héros bibliques qui lâchent prise en vous parlant de Jésus. Jésus, lui, il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin d'un coup de force. Mais il s'est toujours soumis à son père. Mais lui aussi a été tenté. Lui aussi, même en comprenant le plan du Seigneur, ben, il a été tenté de dire bah, « j'ai vraiment pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller sur la croix. » Mais il s'est soumis. Alors, il y a plein de films sur Jésus où en fait Jésus dit « Oh, mais est-ce que c'est vraiment ma mission? Est-ce que je suis vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que c'est vraiment moi ?» Connerie absolue. Je pense que Jésus a pas douté de qui il était, de ce qu'il devait faire. Mais au final, il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie de finir comme ça. Parce que c'est extrêmement désagréable, forcément. Par contre, lui, il n'a pas eu besoin... il a eu besoin de prier, bien sûr, pour dire que ta volonté soit faite. Ta volonté et non la mienne. Il a lâché prise devant Dieu. Les autres personnages bibliques, bon, des fois, avaient des armes et ils voulaient vraiment en découdre avec Dieu et Dieu les a humiliés. Jésus n'y avait pas besoin, mais il s'est humilié lui-même, du début à la fin. Il a entretenu cette intimité avec son père pour toujours faire sa volonté. Et c'est pour ça qu'il est notre exemple. Qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Est-ce que vous avez un Dieu bisounours? Un Dieu, est-ce que vous... Vous imaginez avoir affaire à un Dieu qui vous caresse toujours dans son... Oh, mon pauvre, oh, ma pauvre, oh là là, oh là là. Et des fois, Dieu, c'est être comme ça. C'est être un Dieu restaurateur, un Dieu doux. Et c'est ce que Dieu démontre à Élie, par exemple, qu'il est doux. Mais il n'est pas que doux. Il n'est pas que doux. Il est aussi un Dieu qui peut aussi nous réveiller de notre torpeur, qui peut aussi dire « Mais arrête de faire ça! Arrête, sors de ce cycle pourri et sors de là et maintenant, progresse !» C'est aussi ce Dieu-là. C'est aussi ce Dieu qui peut couper tous les trucs qui vous paraissent importants et qui peut les couper et vous dire « Bon, maintenant, tu fais quoi, maintenant ? Tu fais quoi ? Tu me suis ou tu ne me suis pas ? Ou tu vas encore chialer sur les trucs que tu as perdus ? Tu me suis ou tu ne me suis pas ?» Parfois, on est devant le crocodile. Parfois, on est devant le crocodile. Et on a besoin d'être devant le crocodile. Le Dieu de la Bible s'est pleinement et parfaitement révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est plein de grâce et de vérité. La grâce et la vérité. La douceur, la grâce, l'amour, mais aussi la vérité. Superbe équilibre entre les deux. Ce Jésus qui sait être doux, qui sait guérir, qui sait restaurer, mais qui sait aussi secouer. Voilà qui est notre Dieu. Un Dieu qui nous éduque, un Dieu qui connaît nos besoins, un Dieu qui sait comment gérer les ingrédients pour nous faire progresser. Et c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est que nous savons que tout ce qu'il va faire, que ce soit doux ou que ce soit un peu dur, ça va être fait pour nous faire grandir, pour nous édifier. Et ça marche avec de la confiance. Et si nous lisons dans les évangiles que Jésus a vraiment été quelqu'un d'admirable, de parfait dans ses relations avec les autres, nous pouvons avoir vraiment foi qu'il est admirable et parfait dans sa relation avec nous. Et que nous pouvons vraiment tout lui donner, vraiment lui faire confiance pour vraiment tout, parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il sait vraiment mieux que nous ce qui est bon pour nous. Là encore, quand je dis ça, ça donne absolument aucune réponse à propos des épisodes de notre vie qui peuvent être un peu durs. Bizarrement d'ailleurs, on se pose pas tellement la question à propos des épisodes de notre vie qui sont extrêmement heureux. On trouve ça normal. On se dit, oh là là, Seigneur, c'est normal si je suis heureux. Pour les épisodes les plus douloureux, eh bien, il y a juste à dire, je te laisse les rênes. Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi, et je prie pour ça. Je vous invite justement à prier pour que nous puissions lâcher prise devant notre Dieu. Merci notre Père. Merci parce que tu es un Dieu redoutable, admirable, incomparable. Tu es un Dieu tellement impressionnant. Un Dieu qui pourrait nous pulvériser. Mais tu as choisi de t'incarner et de te mettre à notre niveau pour te révéler pleinement en Jésus. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas faire de toi un Dieu faible. Aide-nous à ne pas être des donneurs de leçons qui savent mieux que toi ce qu'il faudrait faire dans chacune des situations. Aide-nous à nous humilier devant toi. Et surtout, Seigneur, aide-nous à garder ce lien avec toi. Nous voulons te voir. Nous voulons vraiment avoir ce contact intime avec toi. Et aide-nous, Seigneur, à avoir dans chaque situation une occasion de te connaître. Une occasion de te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Aide-nous à inverser nos réflexes, où nous aimerions surtout que toi, tu fasses des choses pour nous. Aide-nous à te demander ce que nous pourrions faire pour toi. Aide-nous à obéir, même si nous ne comprenons pas. Aide-nous à continuer d'être impressionnés par qui tu es. Aide-nous à toujours te respecter pour qui tu es. Seigneur, nous nous humilions devant toi si nous faisons preuve d'orgueil. Si nous avons encore tellement de réticence, si nous sommes un peuple à la nuque raide, comme Israël. Seigneur, continue de nous enseigner et de te révéler à nous, pour que nous puissions être des outils efficaces entre tes mains. Seigneur, envoie-nous. En Jésus. Amen.